Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue laisse la place au Forum de la Presse qui regroupe donc les confrères de la presse malienne. Alors, nous allons parler de 5 sujets aujourd'hui. La MINUSMA qui reconnaît sa responsabilité lors des événements du 27 janvier dernier à Gao. Et également, nous allons également débattre des affrontements entre le MNLA et le Mujao. Et nous allons voir ce qu'il en est de cette explosion aujourd'hui, ce matin donc à Sirakoro-Megetan et de l'attaque du camion du CICR à Gao. Nous allons parler en dernier lieu de l'expulsion des 78 Maliens de la Guinée équatoriale. Alors pour cela, nous sommes avec 3 invités, Youba Konaté de Zénith Balé, Ami Bessissé de Séné RFM et de Mamadou Kan également de la radio Clédou. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Comme promis, la MINUSMA a donc rendu public le contenu donc de son enquête sur les événements du 27 janvier dernier lors de la manifestation donc à Gao. Cette manifestation avait provoqué la mort de 3 civils et Ban Ki-moon a donc présenté ses excuses aux familles des victimes de la manifestation donc du 27 janvier à Gao. Les résultats de l'enquête qu'il avait demandé ont été communiqués donc hier. Plusieurs membres d'une unité de police de l'ONU ont tiré sur des manifestants qui attaquaient la base de la MINUSMA. 3 personnes ont été tuées et 4 autres blessées au cours donc de cette manifestation. Youba Konaté, est-ce que vous êtes les Maliens peuvent être satisfaits aujourd'hui?
Merci Famoussa de nous permettre une fois de plus de donner nos avis sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Effectivement, c'est la livraison des conclusions de l'enquête de l'ONU et dénote quand même d'une bonne foi de l'institution internationale, pour une fois on pourrait dire, que l'organisation internationale a bien agi en reconnaissant explicitement, n'est-ce pas, que ces forces avaient fait usage excessif de la force. Vraiment, ils n'en avaient pas besoin pour tuer des innocents. Pour une fois, vraiment, on peut s'en féliciter. Et une fois de plus, ça confirme la bonne foi des Nations Unies.
Alors, Ami Bessissé.
Ben merci. Comme Youba l'a dit, je suis aussi un peu content pour cela. Mais je dois dire qu'on doit surtout dire merci à la jeunesse de Gao, surtout. Parce que si ce n'était pas eux, les choses n'allaient pas prendre une telle tournure. Et il y avait aussi un collectif ici à Bamako pratiquement qui se réunissait tous les vendredis soirs pour réclamer à ce que cette justice soit faite. Je crois que c'est bien ce que l'ONU a dit, mais les autorités qui ont voulu tourner un peu le peuple en rond, se sont vus aujourd'hui désavoués par l'international. C'est vrai, il y a eu quelque chose. Il fallait taper du poing sur la table. Les autorités ne l'ont pas fait. Et les jeunes qui se sont manifestés ont eu gain de cause aujourd'hui. Je crois que c'est bien comme il a dit, les Nations Unies, on peut encore un peu leur faire confiance.
Alors, Mamadou Kan de la radio Clédou, quel est votre avis sur l'issue de ces enquêtes de la MINUSMA?
Tout d'abord, je tiens à remercier le studio Tamani pour ce débat, le forum de la presse. C'est vrai que ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Ça avait suscité un tollé à Bamako à l'époque, ce qui s'est passé à Gao, et malheureusement les 3 malheureuses victimes. Et aujourd'hui, si l'ONU, à travers son chef, Ban Ki-moon, reconnaît clairement que le contingent rwandais, c'est de cela qu'il s'agit, a tiré, a fait usage excessif de la force pour tuer des manifestants. Mais écoutez, c'est une avancée. Ça veut dire qu'à Gao, plus jamais ça. Et que les autorités maliennes également prennent toutes les dispositions parce que le secrétaire général de l'ONU, il a dit dans les rapports, il dit clairement que les forces maliennes n'ont pas pleinement joué leur rôle.
Ils ont violé l'accord de principe qui donnait donc cette place à la sécurité malienne de jouer pleinement son rôle.
Justement pour notamment encadrer la manifestation, les marcheurs, parce qu'il y a des projectiles, etc. Donc vraiment c'est une avancée et c'est bien pour le Grand Nord du Mali, pour Gao particulièrement.
Alors, Youba Konaté, on avait en son temps évoqué cette responsabilité des autorités maliennes à pouvoir encadrer cette marche de Gao. Encore une fois, que peut-on reprocher aux autorités maliennes par rapport à ce dossier?
Oui, non, c'est sûr qu'il est évident qu'il y a eu des dysfonctionnements. Puisque quand vous regardez déjà les images, vous notez déjà une absence chronique des forces armées et de sécurité maliennes, ce qui a certainement contribué au dérapage. Ben, mais ça ne justifie en rien ce que le comportement de, comment dirais-je, de forces des Nations Unies. Mais cela aussi suscite un autre débat. C'est-à-dire que malheureusement, on ne le dit pas très souvent, les forces des Nations Unies ne sont pas souvent elles-mêmes à la hauteur des choses. Il faut le dire, puisque les pays contributeurs, très souvent, ce n'est pas très souvent les pays nantis qui sont contributeurs de troupes au niveau des Nations Unies. Très souvent, ce sont des pays pauvres, des pays où les forces armées ne sont pas souvent très bien entraînées, qui sont contributeurs de forces. Donc, il y a souvent des déficits de formation au niveau de ces forces, surtout des forces de police et de gendarmerie, pour encadrer des manifestations comme celle de Gao. Souvent, ça pose problème. Mais effectivement, il y a eu un dysfonctionnement au niveau des forces de sécurité maliennes qui étaient totalement absentes. Mmh. Ça aussi, il faut le dire.
Ami Bessissé, la responsabilité des autorités maliennes.
Ben, vous savez, moi, je pourrais peut-être comprendre. L'explication n'est pas la justification. Parce que quand on essaie de voir, les forces onusiennes étaient vraiment débordées. Et je suis sûr et certain que la foule aussi ne s'attendait pas à ce que ces forces de l'ONU tirent sur eux. Parce qu'en réalité, ils sont là pour maintenir la paix et puis l'ordre. Mais si le coup est parti, je crois que c'est quelque chose qui est parti. Mais maintenant, l'armée malienne ou bien les forces de l'ordre ont vraiment trop de choses à faire à la fois. Et c'était très difficile de pouvoir canaliser des jeunes qui ont souvent affronté des terroristes, les groupes armés à main nue comme ça, donc avec l'armée malienne, puisqu'ils sont beaucoup plus proches d'eux. Je crois qu'il y avait cette familiarité qui a facilité, disons, leur rapprochement. Et malheureusement, comme il l'a dit, Kanadi, les trois victimes qui sont tombées ont pris pour elles. Et je crois que plus jamais ça va changer quand même quelque chose. Ça va changer quand même quelque chose dans le dispositif des Nations Unies.
Alors, après ces propos de Ban Ki-moon, indexant donc la responsabilité des autorités maliennes par rapport à cette manifestation, Mamadou Kane, est-ce que cela va susciter une réaction de la part des autorités maliennes?
Bien évidemment, la MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Donc, il va de soi qu'à partir de cet instant, que les autorités maliennes, comme je viens de le dire, prennent toutes les dispositions nécessaires pour que de tels drames ne se reproduisent, que ce soit à Gao ou ailleurs, à travers le Mali. Je pense que la chargée de communication de la MINUSMA, Radia Achouri, elle a dit, et c'est un message qui a été parfaitement compris par tout le monde. Donc maintenant, je pense que les deux parties travaillent à ce que les choses se passent mieux. Et quand il y a des marches de la sorte, c'est vrai, il y a des manifestations spontanées du fait de la colère des populations face à un certain nombre de choses, mais c'est clair que de telles choses, moi je peux mettre ma main au feu, le Mali va mettre du temps avant de reconnaître ça. Donc vraiment, les autorités maliennes vont prendre le problème à bras le corps. Il est faux, et c'est une indispensable nécessité pour tout le monde, et pour les casques bleus qui sont auteurs de cet acte, parce que vous savez qu'il y aura des sanctions vont tomber, et donc les auteurs seront punis. Et voilà, côté malien, on va pleinement jouer notre rôle. Nos militaires vont mouiller la tenue, comme on va dire.
Alors,
si vous permettez, pour ce qui est des sanctions, moi je n'y crois pas trop, puisque les sanctions en la matière, c'est les rapatriements. Pour les Nations Unies, on connaît. On va les rapatrier chez eux.
Pour un casque bleu, être rapatrié pour une faute,
ce n'est pas une sanction. C'est après avoir tué un individu.
C'est une humiliation. Travailler pour le système des Nations Unies.
Alors, la réaction des autorités maliennes est parfois jugée lente par la population. Est-ce que dans ce dossier, les autorités maliennes devaient annoncer l'ouverture d'une enquête comme l'a fait la ministre? Youba.
Non, moi, je pense pas. Moi, je pense que peut-être qu'ils ont bien fait, je sais pas. Peut-être que pour l'opinion nationale, le Mali aurait pu faire un geste. C'est-à-dire que quelle est la nature du geste, moi, je sais pas. C'est les spécialistes qui peuvent se déterminer là-dessus. peut-être que le Mali aurait pu faire un geste pour apaiser ne serait-ce que l'opinion nationale qui était vraiment ébranlée. Maintenant, pour ce qui est de l'enquête, moi je pense qu'il était bon que ceux qui ont commis l'acte, que ce soit eux-mêmes, maintenant, même si c'était en concertation avec certainement, puisque j'ai cru comprendre que dans la commission d'enquête, il y avait quand même les Maliens, n'est-ce pas? Puisque c'est les Nations Unies, donc y compris le Mali. Donc,
c'est mixte, oui.
Voilà. Donc, je pense que c'était la démarche était bien que l'on ait le soin vraiment aux Nations Unies de prendre l'initiative de mener l'enquête. Et fort heureusement, les résultats de l'enquête sont très concluants. Puisqu'il y avait un autre risque. Si c'est le Mali qui avait commandité
l'enquête
et que par la suite, les résultats ne soient pas les mêmes que ceux de la communauté internationale, vous imaginez un peu ce que... Alors qu'il y avait ces risques-là. Donc,
mais il y avait aussi la nécessité de faire cette enquête du côté du Mali, puisque c'est les Nations Unies qui sont indexées. Et là, on devait être, ils sont jugés partis.
Non, non, non. Moi, je ne pense pas. Je pense que... Ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les Nations Unies, c'est elles qui ont commandité l'enquête. Mais le Mali est partie intégrante des Nations Unies. Je suppose qu'il y avait des Maliens dans la commission. Et c'est sûr que pour la crédibilité de la commission d'enquête, ce ne sont pas forcément ceux qui étaient sur les théâtres d'opération qui ont été concernés par l'enquête, je suppose. Ça, c'est la moindre des choses pour l'histoire de crédibilité. Puisque si les Nations Unies, c'est l'ensemble des nations du monde, je suppose qu'au moment de prendre les décisions et d'instituer cette commission d'enquête, on a dû vraiment prendre la mesure pour qu'il n'y ait pas de délit d'initié, que ces gens-là ne soient pas juges et partis. Je suppose.
Voilà. Alors, Ami Bessissé, vous avez évoqué tout à l'heure la bravoure des jeunes de Gao qui s'est exprimée également durant l'occupation. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire de cette jeunesse et que son combat n'est pas près de s'arrêter?
D'accord. Je veux rebondir sur ce que disait Yuba tout de suite. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous sommes d'abord un pays, même si tel n'est pas vrai dans les faits, nous sommes un pays comme souverain. Nous avons des autorités qui sont différentes des autorités onisiennes. Donc, normalement, une enquête devait être ouverte.
Par les autorités.
Par les autorités. Nous avons vu les manifestations dont j'ai parlé tout de suite au monument de l'indépendance, exactement sur le trajet du président de la République, pour qu'il voit et qu'il sache qu'il y a des jeunes ici qui veulent que justice soit rendue. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils se sont fait emprisonner ici. C'est vrai que les autorités ne voulaient vraiment pas que les choses aillent jusqu'à ce niveau. Normalement, même si l'enquête allait être démentie, il devait quand même avoir une enquête. On a vu, quand il y a eu Aguilhok, il y a eu des enquêtes. Quand même si ce n'était pas tout à fait ce que les gens attendaient, il y a eu des enquêtes, il y avait un rapport qui était là.
Si on part dans cette logique-là, si c'est vous-même, vous venez de le dire, à quel point il n'y avait pas les Nations Unies. Non, ce que je voulais dire.
Oui, mais il y a la CPI après, comme vous l'avez
dit. Si c'est, comment dirais-je, les autorités maliennes devaient commanditer. Moi, j'ai dit dans l'entame de mon propos, j'ai dit que peut-être, certainement, il aurait dû avoir un geste. Quelle était la nature du geste pour apaiser, ne serait-ce que l'opinion de nationale? Maintenant, si on voulait jouer au dilatoire, c'est-à-dire que les autorités nationales pouvaient commanditer une enquête et jouer au dilatoire.
S'il n'y a pas ouverture d'enquête.
Je pense que ce débat n'a pas lieu d'être. À partir du moment où ce sont des casques bleus qui ont été indexés comme auteurs de cet acte, si les Nations Unies mènent de façon très impartiale une enquête, après les résultats, comme vous l'avez dit, Yuba, si les résultats sont concluants, ben, tant mieux quoi. Après, est-ce que les Maliens étaient là ou pas?
À cette époque-là, la crédibilité de l'aménagement était en jeu.
Oui, mais c'était un jeu. Moi, c'est par rapport à l'implication des Maliens dans la commission d'enquête.
Ah, d'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et également notre site web sont à votre disposition pour toute réaction éventuelle à ce que vous entendez au cours donc de cette émission. Nous sommes donc dans le forum de la presse. Le forum de la presse qui a comme second thème les affrontements entre le MNLA et le Moujaou. Les combats ont éclaté avant-hier à Inazol, au sud donc de Menaka. La coordination des mouvements de l'Azawad déplore la mort de 5 de ses combattants. Selon le porte-parole du MNLA, cette attaque justifie la nécessité de parvenir très rapidement à un accord de paix satisfaisant pour toutes les parties. Yuba, quel est votre avis sur ces affrontements? cette réaction.
C'est porte-parole du MNLA, se moque de qui alors? Vraiment, il se moque de qui? Il y a un, comment dirais-je, un projet d'accord à votre niveau. Bon, mais c'est déplorable. Il se moque de qui? Mais il faut dire que ces affrontements vont continuer, ça c'est sûr. Ces affrontements vont continuer. Parce que le préalable, on l'a dit, on ne va pas, comment dirais-je, se fatiguer à le dire. Le préalable, c'est que vraiment qu'on arrive à isoler ceux qui ont des revendications politiques. C'est ça l'engagement et c'est ça la dynamique du plan de paix que l'ensemble des partenaires veulent pour ce pays. C'est-à-dire que l'accord de paix en soi n'est pas la fin ou n'est pas forcément la paix.
Ce n'est pas une panacée.
Voilà, ce n'est pas une panacée. Mais on se dit qu'avec l'accord de paix, on va parvenir à isoler les éléments qui les terroristes qui ne sont pas porteurs du projet politique. C'est ça tout l'enjeu. Maintenant, si le porte-parole du MNLA dit qu'il faut arriver à... Bon, il se moque de nous. Et le reste du truc, il faut vraiment faire avec.
Ami BCC.
Mais vous savez, ça fait vraiment rire. Parce que quand, j'ai eu l'autre, comment s'appelle-t-il, Moussa Ashrotman. Parce que les trois Moussa, c'est des gens étonnants. Moussa Aga Sarid, Moussa Aga Taher et puis Moussa Aga Shutra. C'est-à-dire, ces trios, c'est des gens vraiment qui constituent l'épine dorsale du MNLA, rien que par leur bouche, rien que par leurs propos. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, on ne sait pas d'où est-ce que sort le Moujao. Parce que c'est inquiétant si des groupes terroristes réapparaissent, ou bien des groupes djihadistes réapparaissent dans le nord du Mali, quel que soit l'adversaire qui se trouve en face d'eux, c'est déjà dangereux. Maintenant, le conflit ne peut pas aller dans la même dimension qu'auparavant. Ça c'est sûr. Et on se dit, qu'est-ce que la France fait? Il y a déjà un accord de coopération militaire entre la France et le Mali qui doit mettre terme à toutes sortes d'actions pareilles. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que la France veut encore que les choses reprennent, que les choses aillent de mal en pis pour encore revenir. Parce que si l'accord le projet d'accord n'est pas paraphé, c'est qu'il y a encore des choses qui manquent. Et c'est toujours à l'actif de la France qui sous-traite avec le MNLA.
Mamadou Kane.
Moi, je crois qu'il y a du chaos dans l'air, quoi. Clairement, quand la CMA refuse de paraffer l'accord, c'est clair qu'aujourd'hui, les MNLA, c'est quand même une machine de guerre. Ils ont un puissant moyen de communication, ils ont des médias pour ça. Donc, est-ce qu'ils disent vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est le Moujao qui a vraiment qui est à l'origine de la mort des cinq de leurs éléments? Moi, je pense que nous sommes dans des pipeaux, quoi. Dans des pipeaux, pourquoi? Parce que le plus important maintenant pour nous tous maliens, ils sont aussi maliens, c'est de parvenir à un terrain d'entente, c'est de paraffer cet accord en ce qui concerne la CMA et vraiment permettre à tous les fils des pays de respirer, quoi, vraiment de sortir de cette crise. Parce que c'est vraiment le chaos. Je dis le chaos parce que nous sommes dans un no man's land. Les Moujao, comme je l'ai dit tout à l'heure, les porte-parole qui a tous les moyens du monde aujourd'hui pour communiquer, et voilà, nous avons été attaqués, c'est pas normal. C'est un peu comme, ils jouent un peu à la victime, quoi. Donc maintenant, c'est dommage qu'on en arrive là et c'est dommage que les Moujao refassent surface de cette manière-là également.
Nous sommes dans le Nord, nous restons donc dans le Nord. Des individus armés ont attaqué un camion du CICR qui avait quitté Gao pour le Niger. Les faits se sont produits à la sortie de la ville. Aucun bilan n'est disponible à cette heure. L'organisation humanitaire a dépêché une équipe sur place pour évaluer les circonstances donc de cette attaque sur le camion de la CICR. Donc, Yuba, quelle réaction?
Oui, avant de réagir à l'actualité concernant les CICR, je voulais juste rectifier deux petits trucs. C'est-à-dire que quand dit le MNLA est une machine de guerre.
Non, j'ai dit moyen de communication. Voilà, communication. Juste pas voilà, arme.
Peut-être un lapsus.
Ouais,
quoi.
Ouais, lapsus oui.
Le MNLA n'est pas une machine de guerre. Et aussi, comment dirais-je, ami BCC a dit... Le gouvernement français sous-traite avec le MNLA. Non, moi je ne crois pas. Ce serait trop donner de pouvoir au MNLA. Moi, je ne pense pas. Les positions officielles de la France, moi, je m'en tiens à ça. Les derniers appels, les trois derniers appels de Laurent Fabius a dit clairement, sont les derniers propos de Laurent Fabius concernant les MNLA et l'accord, le paragraphe de l'accord d'Alger. Laurent Fabius a été très clair.
Mais
et de façon officielle.
Vous savez que nous sommes dans un contexte politique et diplomatique. La France peut dire au MNLA en direct de faire ça. Et puis de l'autre côté, quand même, on ne peut quand même pas faire confiance à la France. Tu sais bien que le MNLA n'a que comme piédestal la France. Ça.
Si on doit rentrer dans ce jeu-là, on ne va pas s'en sortir. Ça va être très compliqué pour moi. C'est-à-dire que, comme on le dit en Bamara, ça c'est très compliqué.
Non, mais il faut reconnaître aujourd'hui que les MNLA sont quand même influents. C'est un mouvement qui reste très influent.
Je maintiens
la
position officielle de la France, qui est claire. La France, Laurent Fabius a dit clairement et officiellement au MNLA, il n'y a pas d'alternative pour le MNLA, pour la CMA.
Mais c'est quoi le point de blocage?
Alors aujourd'hui donc, c'est le Moujaou, encore une fois, qui a revendiqué l'attaque.
Comme ça, vous permettez, et si vous souvenez, lors des assises de Kidal, des soi-disantes assises de Kidal, vous avez vu des banderoles sur lesquelles on insultait la France.
Alors donc
ça c'était pas le MNLA.
C'est le Moujaou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a donc revendiqué l'attaque du camion. Alors le bilan, le chauffeur est mort, Kan.
C'est regrettable, c'est dommage parce que
toujours le Moujaou
encore une fois.
Comment isoler ce mouvement?
C'est un groupe terroriste qui est clairement, c'est la liste noire de tous ces groupes djihadistes qui sévissent un peu partout à travers le monde. Donc, pour le Mali, c'est le Moujaou. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on s'attaque comme ça à des travailleurs humanitaires. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi ça sert l'emblème, finalement, d'une institution internationale comme les CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Parce que l'emblème, ça veut dire... Non, on ne tire pas sur ce véhicule. Non, on ne tire pas sur ce camion. Non, ces gens-là, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour aider les populations. Et comment des jeunes se permettent de prendre des motos armées jusqu'aux dents et aller jusqu'à tirer un chauffeur, un Malien? C'est pas un étranger. Ils ont porté un coup dur à ce jeune, à sa famille. Un coup dur aux populations qui sont démunies, qui manquent de tout et d'absolument rien. Parce qu'il faut toujours rappeler que les CICR au nord du Mali, c'est quand même des aides multidimensionnelles dans tous les domaines, pratiquement. Même une famille déchirée, les CICR est là, quoi. Les dotations en nourriture, les kits scolaires, etc. Bon, ils ont dit que maintenant, c'est la suspension des déplacements, mais pas des activités. Mais qui dit suspension des déplacements dit forcément ralentissement des activités. Donc, c'est vraiment un coup dur pour les populations du nord du Mali.
Alors, quel effet donc de l'arrêt momentané donc des appuis du CICR à MBCC?
Vous savez, on a déjà des milliers de réfugiés dans les pays voisins et souvent même au niveau de la frontière. Mais comme l'a dit Kan tout de suite, ces gens n'ont pas besoin qu'on leur dise de ne pas faire ça. Ça dit que ce ne sont pas des gens formés pour ça. Si c'était des militaires d'un pays, peut-être, à la rigueur, on peut les comprendre. Mais des gens qui ne sont là que pour détruire, pour faire du mal, c'est des gens qui ne feront aucune différence. Et moi, je crois que des véhicules comme ça doivent être escortés par soit l'administration, soit par l'armée malienne.
Et il est dit dans les droits, dans les principes humanitaires, qu'en période de conflit, les forces combattantes doivent protéger les travailleurs humanitaires. Donc,
les forces rebelles. Aujourd'hui, on est dans le terrorisme. Yuba, comment est-ce qu'on peut demander à des terroristes
les
de respecter...
Les islamistes ne sont pas des forces rebelles. Non, c'est des anarchistes. C'est clair, c'est des anarchistes. Ce ne sont pas des forces rebelles. Même les forces rebelles, c'est-à-dire que c'est classiquement qui portent des revendications politiques, ont des limites. Mais les anarchistes, les islamistes, ils veulent que le désordre. C'est clair, ils ne veulent que le désordre. Ils ne veulent pas autre chose. Ils veulent que le désordre dans la zone et puis le tour est joué.
Exactement.
C'est-à-dire que moi, je veux faire une petite discrétion du côté de Boko Haram. Vous avez vu, c'est avant, tout juste aujourd'hui, la situation au Nigeria évolue très positivement. Mais avant, les gens avaient pensé que les gens de Boko Haram, c'était des diables, des trucs. Idriss Déby a dit, c'est des gamins en armes. Et il est en train de les botter.
Il est en train de les bouter. C'est
il n'est pas seul, il y a le Niger aussi.
La démystification.
Oui, mais l'initiative. Il faut les démystifier. Alors, c'est ça justement.
Avant la pause, mais... nous avons un sujet. Cette explosion aujourd'hui qui a détruit ce matin une maison dans le quartier de Sirakoro-Megueta à Bamako. Selon les premières constatations, l'explosion s'est produite suite à une mauvaise manipulation d'un engin explosif. Le souffle a tué la personne qui l'utilisait. L'explosif, selon les sources interrogées sur place, il s'agirait de l'acte d'une personne liée au banditisme jusqu'à Bamako. Donc, Mamadou Kane, quelle vision sur cette explosion?
C'est un serpent des mers. Il y a eu l'attentat à la terrasse. Maintenant, on nous dit ce matin qu'il y a une explosion au niveau de Sirakoro-Megueta. Famoussa, entre nous, clairement, Bamako est devenue une poudrière. Une véritable poudrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller à Sirakoro, on peut aller en commune 1, en commune 3, en banlieue de la capitale. On peut trouver partout des armes qui viennent de n'importe où. Voilà, le problème est là aujourd'hui. Parce que Bamako, aujourd'hui, tu as ton véhicule qui est teinté, tu as ton véhicule banalisé, tu mets des armes derrière. Les policiers, quand ils te suivent, ce n'est pas pour regarder si tu as des pièces en bonne uniforme. Non, c'est pour te demander, ouais chef, est-ce que je peux avoir 1000 francs avec toi? Dans ce genre de pays, il ne faut pas s'étonner quand on te dit qu'il y a une explosion machin et qui a détruit une maison carrément et qui a fait une victime, un gardien, 4 blessés notamment. C'est dommage. Ça prouve encore une fois de plus que nous sommes dans une capitale qui est près d'exploser. Quoi. C'est dommage de le dire, mais ce qu'on a vu hier au Kenya avec les fous d'Al-Shabaab qui sont partis tuer des étudiants, c'était horrible. Mais on n'est pas loin de là. Si les autorités ne se réveillent pas, on n'est pas loin de ces cas. On n'est pas loin de ce fait que les gens vont aller finalement dans les mosquées quoi, pour se faire exploser. Parce que comment on peut comprendre cela ici à Bamako, maintenant? On se pose des questions. Juste là, il y a l'enquête qui se mène. Il y a l'unité spéciale de la sécurité d'État avec les éléments du génie militaire. On attend les conclusions. Mais encore une fois, c'est clair que Bamako aujourd'hui, ça craint quoi. Ça craint ici à Bamako.
Yuba.
Oui, ok, merci. Bon, moi, je ne vais pas aller aussi fort que Cannes. C'est-à-dire que Bamako, peut-être, n'est pas en train d'exploser, n'est pas prêt d'exploser, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce dont on peut être sûr, c'est que nous avons ici des cellules dormantes. Combien elles sont, jusqu'à quel niveau elles sont armées, des trucs, ça, c'est des débats. Mais ce qui est sûr, il y a des cellules dormantes. On peut être sûr. Puisque moi, j'imagine un peu que... ceux qui ont fait le coup de la terrasse, les armes qu'on a découvertes à Sibinikoro, c'est sûr, c'est ce qu'on a vu. C'est sûr qu'il y a certainement d'autres caches d'armes, d'autres trucs qu'on n'a pas encore retrouvés. Et certainement, que Dieu nous préserve. Et qu'il y a des trucs certainement qui se préparent contre notre pays. Donc, c'est pourquoi il va falloir que nos autorités, n'est-ce pas, modifient un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans notre pays comme si de rien n'était, comme si on est dans un pays normal.
Oui, mais
on n'est pas dans un pays normal. Dans un pays normal. Il va falloir vraiment revoir les stratégies, les comportements surtout.
Bien, moi je crois que comme Cannes, il faut aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux à Bamako.
Donc ça va exploser.
Même à la cité ministérielle.
Là où tu veux faire exploser Bamako aujourd'hui, tu peux. Il n'y a pas de sécurité nulle part ailleurs, ici on ne le voit. Maintenant, par rapport à cet homme, on ne sait même pas qui c'est.
C'est un gardien de 22 ans.
De toutes les façons, c'était dans un bâtiment civil. Mounir ou Mohamed Cissé qu'on avait arrêté ici, c'était dans des circonstances comme ça. Wadoussen était dans un endroit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits isolés avec des personnes peut-être qui ne sont pas encore entrées en action. Et quelle est la sécurité? En réalité, quand on arrête une personne ou bien des suspects, on crie à la télé. Mais quand les choses graves se passent, on ne dit rien. C'est la population aujourd'hui seulement qui peut essayer d'assurer sa propre sécurité. Moi, je crois qu'il faut vivre...
Mais la population
en dénonçant, peut-être.
Non, ouais, mais moi, je crois qu'il faut, il faut vivre à l'européenne. Ce n'est pas pousser les gens à la violence, mais il faut vivre à l'américaine, disons. C'est-à-dire, moi, je ne compte pas sur l'État pour qu'il assure ma sécurité. Moi-même, je vais assurer ma propre sécurité. C'est le meilleur moyen. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que l'État...
En quoi faisant?
Faire attention et peut-être même trouver un couteau, un bâton, toute arme qui permettrait...
Je pense que c'est dangereux.
Ça pourrait peut-être pousser à faire justice soi-même. Nous allons donc observer quelques secondes de pause ensuite pour la troisième partie de cette émission.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est donc vendredi, le forum de la presse, avec le dernier thème dont nous allons parler aujourd'hui, l'opération d'expulsion de 78 Maliens de la Guinée équatoriale. Alors, Mamadou Kane, quelle vision sur ces expulsions, d'autant que les autorités maliennes disent n'avoir pas été informées donc, de ces expulsions?
C'est toujours la même histoire avec les autorités maliennes. C'est des incapables. Ils n'arrêtent plus de prouver à la face du monde qu'ils sont incapables. Moi, personnellement, j'étais à la protection civile, voir ces compatriotes, ces Maliens qui ont été expulsés. Ils n'ont pas été rapatriés, ils ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Ils étaient dans des conditions dantesques. C'est incroyable. J'ai causé avec certains qui ont passé plus d'un mois en prison, en caleçon. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Quand ils tentent d'alerter les autorités consulaires du Mali dans ces pays, à Malabo, à Bata, c'est toujours la même réaction. C'est-à-dire que c'est silence radio. On ne s'assume pas à l'étranger. Je vous donne juste un exemple. Moi j'étais à Oujda. Oujda, c'est la forêt Sidi Maafa au Maroc. Il y a beaucoup de migrants subsahariens. J'ai croisé des Maliens qui me disent clairement, quand ils ont des problèmes, ils contactent l'ambassade au niveau de Rabat. Et l'ambassadeur leur dit clairement, non, nous ne sommes pas là pour vous. Vous êtes des migrants, des clandestins, vous voulez partir en Espagne, allez-y, nous sommes là pour les étudiants. Donc c'est pareil en Guinée équatoriale. C'est-à-dire que les Maliens souffrent. Nous ne sommes pas dans un pays souverain, il faut se faire respecter pour qu'on respecte ses concitoyens à l'étranger. Quand vous voyez ces jeunes qui sont revenus au pays, certains sans chaussures, hein, carrément, mais démunis du tout. Ils ont été dépouillés de leurs biens. Et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de papiers. Les autorités équato-guinéennes ont menti sur toute la ligne. Ce n'est pas des sans-papiers. Il y en avait parmi qui avaient des papiers, mais qui ont été déchirés. Donc aujourd'hui, que les autorités maliennes s'assument pleinement. Qu'on arrête de nous dire, oui, les autorités équato-guinéennes, on veut des explications, machin. Non, c'est à vous de vous respecter. C'est à nous d'abord, au niveau de Bamako, au niveau de toutes les ambassades à l'étranger. Parce qu'un Malien, quand il est à l'étranger... Mais tu te sens, je ne sais pas comment vous dire ça, tu te sens seul quoi. C'est-à-dire quand tu as des problèmes, tu ne sais même pas à qui s'adresser. Il n'y a pas d'appui. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. J'ai discuté avec ces gens-là et je m'en tiens à ce qu'ils m'ont dit. Je m'en tiens à leur version. Les autorités, je vous dirais que dans une semaine, dans un mois, ils répéteront la même chose. Donc c'est la passivité, c'est l'inertie la plus... absolue. Il suffit de parler à la télé, ouais, c'est pas normal. Donc, faut qu'ils agissent autrement. You are.
Oui, c'est ce qui me chiffonne dans cette histoire, effectivement, c'est ça. C'est qu'il y a quand même des gens, des faits qui ont été avérés, que certains de ces expulsés avaient des papiers.
Bien sûr.
Ça, c'est vraiment déplorable, quoi, entre pays africains, si ce genre de partenariat ne marche plus, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que si officiellement, la Guinée équatoriale... Bon, maintenant, il y a peut-être des dessous politiques dans cette histoire qui fait que les gens ne peuvent pas réagir aussi. Ça, il faut le dire, puisque les gens, les responsables, ils fuient. Chaque fois qu'ils ont des difficultés, ils fuient pour aller en Guinée équatoriale et ils prennent de l'argent. Donc,
ah oui, évidemment.
Clairement. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Bien donc, tu ne peux pas regarder ce monsieur et dire « Ah non, nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites parce que si vous avez des difficultés, c'est là-bas que vous allez prendre de l'argent. » Et pas de façon officielle, de façon informelle pour vos campagnes ou autres. Donc, c'est vraiment déplorable puisque en partenariat entre pays africains quand même, moi, je ne comprends pas que des gens qui ont des papiers comprennent, qu'on s'en prenne à ceux qui n'ont pas de papiers, on peut le comprendre. Et même là, ça dit que ce n'est pas parce que des ressortissants, certains de vos ressortissants n'ont pas de papiers qu'on doit les abandonner. Non. Non. La Guinée équatoriale peut les expulser, mais le Mali a l'obligation de les récupérer et de s'occuper d'eux.
On ne s'occupe pas de... Quand ils sont arrivés à
on ne refuse pas ces populations parce qu'ils sont en faute. Non, non, non.
Alors, pratiquement au même moment, 10 autres immigrés maliens arrivaient donc d'Espagne à Mimbe Sissé. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux-là et puis dire finalement que, à la différence des 78, les autorités maliennes étaient bien informées de l'arrivée de ces 10 Maliens?
Ben moi, je...
Est-ce que c'est bien organisé en Europe par rapport en Afrique?
Bon, de toutes les façons, ce que Kan disait et puis ce que Yuba disait, moi je vais le confirmer parce que moi j'ai eu la preuve qu'il y a des gens qui ont les papiers. J'étais avec un d'entre eux, je l'ai accompagné, il a ouvert sa boîte mail et il m'a montré son papier qu'il a une fois scanné. Ça, c'était une preuve matérielle. Il y a des gens qui ont les papiers, mais ce qu'on ne peut pas comprendre, moi je sais que pendant la campagne, le président l'avait dit, il dit plus jamais aucun Malien ne sera traité comme auparavant. Les Maliens ne seront plus humiliés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Les Maliens sont en train de se faire humilier. En fait, ce n'est pas moi, mais je me mets à la place d'un compatriote qui se voit, comme l'a dit tout de suite, en caleçon pendant combien de temps. C'est vraiment inexplicable. Et
que doit-on reprocher aux représentations diplomatiques?
Mais à quoi sert un consul? À quoi sert un ambassadeur? Vous êtes quand même là tout de suite, ils l'ont dit. Tout de suite, on me fait du mal. Mais vous, même si vous ne pouvez pas peut-être trouver une bonne solution, il y a quand même la façon de le faire. Mais dire clairement à un Malien que nous ne sommes pas là pour vous, c'est comme si c'est quelqu'un en danger.
Souvent, il y a ça. Vous savez, je m'excuse, c'est tout le problème de l'approximatif dans notre pays. C'est-à-dire que ceux qui sont même dans ces consulats, je suis désolé, mais...
C'est un gagne-pain, clairement, c'est un gagne-pain.
C'est pas des professionnels, c'est pas des diplomates de carrière. Très souvent, c'est des concoctations politiques, des trucs. Bon, je suis désolé.
J'ai approché certains d'entre eux qui m'ont clairement dit que les autorités consulaires leur demandent de l'argent.
Parce que moi, je suis convaincu de
l'argent. Est-ce que tu peux comprendre ce côté Yuba? De l'argent, un Malien en difficulté à l'étranger, la personne qui est censée te protéger, venir en aide, finalement, te demande l'argent
pour que tu puisses sortir de la galère. Parce qu'il a une villa en sentier qui n'est pas... Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, Bamsa. C'est-à-dire que, très souvent, ce n'est pas forcément des questions même de moyens. Puisque dans les représentations diplomatiques, c'est sûr que très souvent, à l'image du pays, ils n'ont pas de moyens. Mais souvent, c'est des simples comportements qui peuvent soulager ces gens.
Oui.
Mais ces responsables-là le font. Parce que ça ne les coûte absolument rien. De dire simplement, ok, on va vous s'occuper de vous, voir l'argent pour dire, monsieur, quand même. C'est un être humain comme... C'est-à-dire qu'en tant qu'investi de l'autorité et aller plaider pour un compatriote, ni serait-ce que ça, ils ne le font pas.
Non.
Et ça ne leur coûte absolument rien. Pas forcément de l'argent.
Oui.
Moi, je crois que c'est une affaire qu'on ne devait pas taire comme ça. Même si ça devrait être un incident diplomatique, on devait y aller à ce niveau. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois. Tout de suite, il y a encore des gens en attente d'être expulsés. Oui. Parce que ce n'est pas fini.
Des centaines.
Donc, si une fois on a fait, deux fois on a fait, ça va continuer. Je ne sais pas ce que les autorités font. Les Maliens, surtout, c'est des gens qui envoient de l'argent. C'est des gens qui ont laissé leur famille ici. C'est des gens qui sont sur le chemin de l'incertitude.
500 milliards de contributions à l'économie nationale.
Plus que l'aide au développement.
Plus que l'aide au développement, plus que même souvent certaines institutions, comment on appelle ça là, financières. Moi, je crois qu'il faut trouver la formule. Si c'est des gens qui sont partis, comme d'habitude, on le sait, c'est en Europe, un peu partout, on va sans papier, mais quand même, prendre les gens comme ça et les expulser ou bien les mettre en prison pendant combien de temps? Je crois que vraiment, ce n'est pas malien.
La formule est tout trouvée. Il s'agit simplement pour les États partenaires de comprendre que vous ne vous amusez pas quand il s'agit de vos compatriotes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux Maliens ou trois Maliens qui sont en difficulté quelque part. Un ministre de la République fasse le déplacement pour aller dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Et dans les termes appropriés diplomatiques, que le partenaire qui en fasse ça simplement, qu'on ne s'amuse pas avec la vie de nos compatriotes. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les autorités équato-guinéennes sont capables d'expulser les Sénégalais, les Ivoiriens? Juste un exemple. Mais non.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les autorités sont imposantes. Les autorités se font respecter. C'est tout le contraire.
Justement, il y a ça. Et regardez au Mali. Moi, je me dirais même que c'est le pays où il y a plus d'illégaux. Mais pourquoi nous, on n'expulse pas? Parce qu'on a une certaine éducation qui ne nous permet pas de faire ça aux autres. Mais à partir du moment où il y a une certaine rigueur, une certaine autorité qu'imposent d'autres États, je crois qu'il faut changer de méthode et puis d'aller dans ce sens. Parce que si tu ne peux pas le faire, donc tu laisses la place à l'autre. Quoi. Parce que moi, je crois que c'est une promesse de campagne. Le président, il doit vraiment
faire cela. Il y a beaucoup de promesses de campagne.
Bien avant Ibeka, ce problème subsistait.
C'est pas un problème.
Quand un Malien a un problème à l'étranger, ça a toujours été comme ça.
Mais aujourd'hui, c'est Ibeka qui a pris l'engagement.
Il a failli pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
Il doit redresser la barre.
Alors aujourd'hui, cette volonté qui est de promettre le bonheur aux Maliens, Yuba, est-ce qu'on peut oublier ce côté bonheur promis aux Maliens?
Oui. Si vous pouvez l'oublier, ça va vous faciliter les choses. Parce que non. Franchement, moi je pense que vous savez, dans nos pays, ce n'est pas forcément peut-être pour attaquer un camp. Dire aujourd'hui, peut-être c'est l'RPM qui est au pouvoir, effectivement. Bon, et le RPM déjà arrivé au pouvoir, déstructuré, tout. Et C'est quand, à la dernière minute, les gens ont compris que la victoire va aller dans ces camps-là, que tout le monde a commencé à courir, les anciens militants, c'est-à-dire ceux qui venaient même pas aux réunions pendant 7 mois, 8 mois, ont tous commencé à fouiller et venir, voilà. Non, ce n'est pas, comment dirais-je, approprié à un camp. C'est-à-dire que la politique de façon même, pratiquée de façon chez nous, c'est, si on peut faire autre chose pour diriger nos États, c'est mieux.
Ben, il ne faut jamais perdre espoir. Moi, je sais que nous sommes dans un pays qui traverse des moments très difficiles. Ce n'est pas facile. Quel que soit le président qui serait là, à la place d'Ibe Kamoua, je me dirais qu'il n'allait peut-être
pas... L'oublierait les Maliens,
non, 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 non. Moi, je vais nier aussi. Non, non, non.
Ça reste son point de vue.
Laisse-le
terminer.
C'est son point de vue.
Ami, j'ai dit que quel que soit le président qui serait là aujourd'hui, moi, je me dirais que les choses n'allaient pas être... mieux que ça, quoi. Je n'ai pas fini. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut encore qu'on ait de la patience. Même si le président et toute son équipe ont contribué à plonger le pays, moi je crois que les Maliens doivent se mettre ensemble. Tout le monde l'a dit, il faut vraiment une union sacrée aujourd'hui.
Une question, Ami. Oui. Est-ce que tu es prêt pour le changement, personnellement? Est-ce que nous sommes prêts pour ce changement, nous Maliens, aujourd'hui?
Si je n'étais pas prêt pour ce changement, je n'allais pas être sur ce plateau.
Moi, je ne le constate pas.
Non.
Au-delà des promesses électorales d'Ibeka, etc., est-ce que les Maliens sont prêts? Quand on voit Ozone, moi, je prends l'exemple sur Ozone aujourd'hui. Ozone, la propriété à Bamako. Bamako a changé de visage. Mais tu vas voir un citoyen avec sa banane là, il finit Ozone, la poubelle est là, mais il balance ça à côté. Mais est-ce qu'on est prêt? Non, c'est vrai qu'on a des chemins à faire aujourd'hui. On a des chemins dans l'administration malienne égale. Aujourd'hui, c'est pareil qu'en 2002, c'est pareil qu'en 2010. Donc, rien n'a changé. Nous ne sommes pas prêts, les autorités ne sont pas prêtes. Donc, du coup, on va rester dans cette phase stagnante.
Alors, comment évoluer les mentalités, faire évoluer les mentalités dans ce contexte de fragilité pour l'État malien, Yuba?
C'est ce travail préalable peut-être qu'il aurait dû faire. Je crois que Kan est trop enthousiasmé avec les débats de l'ONU.
Non, Ozone, c'est juste un exemple.
On quitte l'ONU.
Voilà, Ozone, c'est juste un exemple.
On est sur la mentalité.
Ce n'est pas un modèle
qui
m'inspire. Parce qu'on a les dessous, ce n'est pas un modèle qui m'inspire. Je vais vous dire un truc aussi.
Mais ça marche pour l'instant quand même.
Pas forcément.
Pour moi, la mentalité.
Trop tôt de dire que ça marche.
La mentalité.
Ce que je vais vous dire, par rapport à Ami, il y a un truc vraiment, il faut que je rectifie. C'est-à-dire que dire aujourd'hui que quel que soit le président qui aurait été là, c'est le même résultat, moi je suis désolé.
Non.
C'est du fatalisme.
Qui allait faire mieux? Ce n'est pas une question de donc aujourd'hui, ce n'est pas une question.
Non, il faut de la rigueur. Je vous donne juste un exemple. Jérôme Lynch, quand il venait aux affaires, qu'est-ce qu'il avait, les jeunes, quand ils font les grèves? Non, mais vous arrêtez avec ça, vous allez travailler, il y avait des travaux publics.
Jérôme Lynch, c'est les années 80, ce que je vais vous dire.
C'est un exemple, ça reste un exemple qui peut nous inspirer, Yuba.
Ce que je vais vous dire. Dire que quel que soit le président qui aurait été là et c'est le même résultat, moi je pense que non, ça insulte la conscience des Maliens.
Je n'ai pas dit le même résultat, j'ai dit
aujourd'hui,
que ça n'aurait pas changé.
Aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, tout le monde sait, on a dit, on a prôné l'union sacrée, on a prôné tout, c'est vrai. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat du choix d'un homme, c'est le président Ibeka.
On va pas entrer dans ce débat-là.
Voilà ce qui arrive quand on invite des journalistes pour débattre de l'actualité de la semaine, on ne s'entend plus et là, on est obligé, car le temps est arrivé de mettre fin donc à ces discussions. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara était à la technique, Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission, Salim Douara était à la régie vidéo. Voilà, c'est le débat de la semaine qui s'achève donc. Il était question de 5 sujets. La responsabilité de la MINUSMA sur les incidents du 27 janvier et dernier à Gao qui ont fait 3 morts parmi les manifestants. Les affrontements entre le MNLA et le Moujaou. L'explosion de ce matin à Sirakoro-Méguetan et l'attaque du camion du CICR qui a fait 1 mort à Gao et 1 blessé. Les expulsions de Maliens de l'étranger, principalement de la Guinée équatoriale, 78 Maliens au total. Donc, s'il était question de ces 5 sujets, nous vous disons bon week-end, au revoir et à très bientôt.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.